Vous arrivez bientôt à Granby. Et déjà, vous entrez dans un espace d'entre-deux. Granby, ville carrefour, se déploie à la jonction mouvante de plusieurs espaces, au seuil de la Montérégie et des cantons de l'Est, entre les basses terres du Saint-Laurent et les premières ondulations appalachiennes, entre Montréal et Sherbrooke, entre l'héritage anglais et la culture ouvrière canadienne-française. Ni tout à fait urbaine, ni tout à fait rurale, ni exactement une banlieue. Marquée par son passé industriel, Granby est aussi liée à la villégiature et au tourisme, une ville au double visage, forgée dans le caoutchouc, le tabac ou le textile, mais aussi bordée de chemins qui se perdent dans le bois ou la campagne, et parfois même dans des forêts tropicales ou la savane africaine, où des animaux exotiques font la joie des enfants depuis 80 ans. Son nom, Granby, est hérité d'un général britannique, s'inscrit dans une toponymie de conquête. Mais le territoire, lui, parle une autre langue, celle de la Yamaska, rivière au nom Abénaki, celle du relief, des usages du sol, du travail ou de la production, une langue faite de gestes, de rythmes, de mémoire. C'est ce territoire composite, cette identité mouvante que vous explorerez, non pour figer, mais pour écouter. Prêtez attention aux dissonances comme aux correspondances, aux seuils, aux passages, aux lignes de friction. Mon nom est Dominique Marcille, je suis professeur de littérature, poète, membre de 3e Impérial, Centre d'essai en art actuel, et citoyenne Granby. Je vous souhaite la bienvenue dans ma ville.
J'ai parcouru le monde entier. Et lorsque j'entends un sifflet siffler, je sens que je dois m'embarquer. N'entends-tu pas le train qui siffle? N'entends-tu pas le train qui s'en vient? Ne vois-tu pas ce train qui m'invite? Allons, serre-moi donc la main.
Train qui siffle est une chanson de Paul Brunel, pionnier du country francophone et qui a vécu toute sa vie à Granby. Si vous arrivez depuis Montréal sur l'autoroute 10, ou encore depuis les petits chemins plus au nord, vous sentez déjà le paysage se transformer. Les lignes s'accidentent, la terre commence à monter. Vous avez peut-être remarqué le panneau indiquant l'entrée dans les cantons de l'Est. Peut-être au loin, apercevez-vous le mont Shefford. En face, côté sud de l'autoroute, le mont Brome. Ces sommets appartiennent à la chaîne des collines montérégiennes. Ils annoncent aussi une transition, l'entrée dans les premiers contreforts des Appalaches. À la hauteur de la sortie 55 à Ange-Gardien, vous étiez à environ 70 mètres d'altitude. À la sortie 68, celle pour rejoindre Granby, vous atteignez les 100 mètres. C'est là que vous franchissez une frontière invisible, la limite géologique entre les basses terres du Saint-Laurent et les premiers reliefs des Appalaches. Un piémont, disent les géographes. Un seuil. Le commencement de quelque chose. L'autoroute que vous empruntez peut-être aujourd'hui est le fruit des grands chantiers de la Révolution tranquille. Elle a été inaugurée au milieu des années 1960, peu après le premier pont Champlain, et trace une diagonale entre Montréal et Sherbrooke, la reine des cantons de l'Est. Granby, elle, a hérité du surnom de princesse des cantons. Son tracé remplace progressivement l'ancienne route 1, devenue la route 112, comme principal axe de liaison entre les deux pôles. D'abord sans numéro, elle portait un nom, Autoroute des cantons de l'Est, inscrit dans un triangle rouge. Un nom révélateur qui désignait un territoire dont les toponymes et les structures sociales étaient encore fortement marqués par l'héritage anglophone. L'autoroute des Laurentides, construite durant la même période, arborait un écusson bleu, bien français. Deux voies rapides, deux directions, l'est, le nord, deux imaginaires. Granby compte environ 73 000 habitants. Il n'y a pas d'université, aucun ministère ou siège d'un grand organisme gouvernemental, aucune cathédrale, aucun musée d'importance, pas même d'équipe sportive professionnelle. Elle est d'abord une ville industrielle, qui a pris son envol à la fin du 19e siècle et qui a connu son apogée durant le boom économique de l'après-guerre. Les plus grands employeurs se nommaient alors la Minor Rubber, l'Imperial Tobacco, le Granby Elastic Web. C'est durant cette période aussi, et là je citerai Mario Gendron dans son Histoire de Granby, c'est durant cette période que s'affirme la prédominance sociale, idéologique et politique canadienne-française sur la ville, alors que les Miners, les Bradford, les Savage, cèdent le pas au Leclerc et au Boivin à la tête de la mairie. Fin de la citation. Cet âge d'or des grandes factories a laissé place aujourd'hui aux petites et moyennes entreprises, qui sont désormais les piliers économiques de Granby. En 2023, un peu moins d'un tiers de la population active occupait un emploi en usine, ce qui en fait la ville la plus manufacturière du Québec au prorata de sa population. Avec ma famille, je suis déménagé à Granby en 1990. J'avais 9 ans. Mon père a eu une job dans une usine du parc industriel et on s'est installé dans un semi-détaché pas très loin de l'usine. J'ai aimé grandir ici. Les rues des quartiers résidentiels sont larges, parfaites pour circuler à vélo ou jouer au hockey-ball. Il y a beaucoup de parcs et Granby a été pour moi un beau terrain de jeu pour l'enfance. Durant l'adolescence, par contre, Granby est devenue à mes yeux une ville ennuyeuse et banale. Je me retrouve beaucoup dans cette description de William S. Messier, auteur qui a grandi dans le même Granby des années 1990 que moi. Il écrit « J'ai grandi dans un quartier parfaitement ordinaire, sur une rue bordée de maisons préfabriquées aux façades de briques colorées et de clapboards d'aluminium blanc, dans un split level de classe moyenne, avec une paire de voitures japonaises pratiques et économiques dans l'entrée, et un labrador blond à la fenêtre du salon. Ma famille est faite d'êtres humains exceptionnels, mais l'environnement physique dans lequel j'ai grandi, de 6 à 18 ans, n'aurait pas pu être plus banal. Dans ce milieu-là, je suis devenu un adolescent sportif et rêveur, à la recherche de destins à envier et désireux de sortir du paysage qui l'entourait. » C'était un extrait du « Basketball et ses fondamentaux » publié au Quartanier en 2017. Comme mon père, je suis revenu m'établir à Granby pour le travail. Et mon rapport à la ville a considérablement changé. C'est une ville que j'ai réappris à aimer. Assurément parce que j'ai des racines familiales ici, mais aussi parce qu'elle représente un peu le Québec ordinaire, et je le dis aucunement de façon péjorative. Une ville ouvrière, certes, parfois conservatrice dans ses valeurs, mais qui se transforme, qui découvre son histoire, qui s'ouvre à la diversité, à la culture, et qui est soucieuse de la préservation de son territoire. En tout cas, beaucoup plus que quand j'étais enfant. La rivière Yamaska avait alors la triste réputation d'être la plus polluée du Québec. Il ne fallait pas s'y baigner. De toute façon, ça ne serait venu à l'idée d'aucun d'entre nous tellement c'était une évidence. Encore moins manger les quelques truites qu'on pouvait y pêcher. Ville industrielle et résidentielle, Granby n'était pas liée dans mon imaginaire à la nature. Aujourd'hui, vous le constaterez peut-être, la revitalisation des espaces naturels de la ville est assez réussie. Derrière son visage plutôt banal, en la regardant de près, Granby peut se révéler une ville assez étonnante, où on peut admirer une immense verrière de Marcel Ferron à un jet de pierre d'un sarcophage romain, où l'immense jet d'eau du lac Boivin fait écho à celui du lac Léman, où on retrouve une fontaine Wallace, offerte par la ville de Paris, et une réplique du Mannequin Piss, offerte par la ville de Bruxelles. Comme si Granby, observée avec assez d'attention, commençait lentement à se déplacer hors d'elle-même. Pour reprendre une réflexion de Georges Perec dans Espèce d'espace, à force d'être observé, le lieu le plus commun devient improbable et étrange. Il écrit un peu plus loin « J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. De tels lieux n'existent pas, et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être une évidence, cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié. L'espace est un doute. Il faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. » À Granby, il y a peu d'institutions au sens fort. Pas d'université, pas de cathédrale, pas de grand musée. Mais il y a des lieux piliers, des repères à la fois familiers et identitaires, qui marquent le territoire autant que la mémoire. Pour le dernier segment de ce balado, je voulais vous en présenter deux de ces institutions. La première fait dans l'ordinaire assumé, chez Ben, cantine emblématique située sur la rue principale, qui a plus de 75 ans d'existence. Fondée dans les années 1950 par Bernard Ben Dubé, elle était d'abord une cantine mobile qui s'est installée dans un local permanent en 1971 et où est érigée depuis sa célèbre enseigne en néon, sur laquelle un homme bedonnant engouffre perpétuellement un hot-dog géant. Aujourd'hui, elle fonctionne toujours à plein régime. Elle a même été sacrée à 3 reprises meilleure poutine au monde, selon le Festival de la poutine de Drummondville. La cantine appartient toujours à la famille Dubé.
Sur la rue des Ragons, y a un trottoir sur chaque bord de la rue. C'est prévu, c'est pour les piétons, pour que tu puisses te rendre jusqu'à ma maison.
Sur la rue des Ragons.
chanson « La rue des Ragons » a été composée par les Vulgaires Machins, groupe punk rock francophone formé à Grimbé au milieu des années 1990, est toujours actif. Si la cantine chez Ben est un lieu pilier ordinaire, l'autre offre plutôt l'évasion dans l'extraordinaire, l'exotique, l'ailleurs enclos. Le zoo, bien sûr, dont la réputation dépasse largement les frontières de la ville. En fait, pour qui n'a pas de lien direct avec Grimbé, c'est bien souvent la seule image qu'on a de la ville. Le zoo est l'initiative du maire Horace Boivin, en poste de 1939 à 1964, qui a mis à profit les nombreux contacts établis à la suite de ses voyages à l'étranger pour peupler son zoo d'animaux exotiques venus des quatre coins du monde. Sur le site web du zoo, on peut lire à propos du maire Boivin. Il a toujours adoré les animaux. Jeune, il possédait une demi-douzaine de chiens, puis ce fut des chevaux et une chèvre, née avec seulement trois pattes. Attraction touristique de premier plan au Québec, le zoo accueille aujourd'hui annuellement près de 600 000 visiteurs. Avant de conclure ce balado avec l'écoute d'une autre pièce de Paul Brunel, j'avais envie de vous lire un extrait de Prophétie en voix off, recueil que j'ai publié en 2023 et qui contient quelques traces de mes pérégrinations dans Grimbé. Avenue du Parc, boulevard industriel, place de la mairie, place de la paix, rue de l'Horizon, rue principale, rue centre, rue city, rue de la gare, il n'y a pas de gare, rue church, il n'y a pas d'église. Le privilège d'habiter partout. Le privilège d'habiter nulle part.
Je suis né dans une vallée, mais je m'en suis éloigné. Je reviens revoir mon chez-moi et mes amis d'autrefois. Mais les figures ont bien changé, mes amis ne sont plus là. Je ne me sens plus chez moi. Les fermiers ne sont même plus là. Le progrès les a chassés. On ne voit les montagnes, seulement de grands cheminées. Les vieux chemins de campagne où j'aimais me promener ne sont plus chemins de campagne, mais de grandes routes. Je me cherche une autre vallée où je pourrais vivre en paix, où l'on peut toujours respirer. Loin des bruits de la grande ville, de tout cet air pollué, enfin je pourrai vivre heureux comme au bon vieux temps passé.
Ce balado a été conçu et réalisé par Dominique Marcille, à l'invitation du 3e Impérial, centre d'essai en art actuel. 3e Impérial est un centre d'essai voué à la mise en œuvre de l'art actuel dans des espaces non dédiés à l'art et dans un rapport de proximité à la collectivité. Il accueille des artistes en résidence sur une période de 18 à 30 mois, dans une formule multi-séjour pour développer des projets d'art infiltrants dans la communauté grandbienne. Ce centre travaille à féconder les rapports artistes-public et à valoriser les liens entre la pratique artistique, l'espace public et l'engagement social. C'était un extrait du site web du 3e Impérial que je vous invite à consulter pour plus d'informations sur sa mission et sa riche programmation. Je tiens à remercier La Traversée, atelier de géopoétique, qui a accueilli une version antérieure de ce balado, dont le texte se retrouve dans l'ouvrage collectif « Grimbé entre deux », paru en 2026. Je remercie finalement la Société d'histoire de la Haute-Yamaska. Ce balado contient deux chansons de Paul Brunel, « Le train qui siffle » et « Ma vallée a bien changé », et une chanson des Vulgaires Machins, « La rue des Ragons ».